Bonjour, la tête au carré, c'est Marnie de Saint-Maur. J'attends même pas la fin de votre émission d'aujourd'hui pour réagir. J'en peux plus, j'ai failli envoyer le poste par la fenêtre. C'est formidable quand on entend les gens qui sont des zélateurs du nucléaire de voir tout ce qui est dépensé, et je dis dépensé à plus d'un titre, pour qu'on garde cette énergie qui nous coûte un fric public invraisemblable, des milliards d'argent public qui auraient été bien mieux placés ailleurs, au lieu de trouver des solutions avec quelque chose qui soit naturel et qui coûte pratiquement rien, c'est-à-dire le soleil, le vent, la marée, etc., etc. Parce que vous pensez bien que dire à des industriels, on va utiliser ce qui est gratuit, mais quoi gratuit? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça marche pas le gratuit. Non, 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 nous ce qu'on veut c'est de l'argent public, on veut beaucoup d'argent. On s'en fout que ça soit dangereux le nucléaire, on s'en fout que ça coûte très cher, on s'en fout que ça marche pas. On s'en fout qu'on en ait pour des milliards, des centaines de milliards d'années. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner du fric. Je crois que là, on a bien compris que c'est uniquement ça qui les travaille. C'est pas du tout décarboner la planète. Ils en ont rien à foutre. Enfin, objectivement, moi, je dis, tous ceux qui adorent le nucléaire, allez habiter à côté d'une centrale ou allez habiter à côté de la Hague. Et puis surtout, donnez un bout de votre jardin pour enterrer les déchets. Je pense que là, tout d'un coup, ils vont se dire, pas sûr. Hein. Tant que c'est loin de chez nous, allez, merci la Terre au carré. Et je pense que c'est pas prêt d'être réglé cette histoire nucléaire, hélas. Salut.
Et c'est Gio de Gap. Et alors, c'est dommage, peut-être ça passera pas aujourd'hui, mais mon idée c'était par rapport au nucléaire, pourquoi on ne parle jamais des centrales au thorium, et voilà, qui sont un peu moins dangereuses, qui seraient, voilà, ce serait un juste milieu entre le nucléaire classique, là, à uranium enrichi, ou je sais pas ce que c'est, et le thorium. Voilà, ben, il faudrait poser la question aux scientifiques. Eh ben, je vous remercie. Belle journée.
Bonjour, la Terre au carré, Colette de Perpignan. Écoutez, je suis vraiment très contente que vous consacriez une émission au nucléaire en pleine campagne électorale, parce que c'est un sujet que je considère comme éminemment politique. Or, silence radio, on n'entend pas parler, ou très peu, hein, par tous les candidats. Les conséquences possibles ou avérées, d'ailleurs, sur nos vies sont telles. La dernière, c'est quand même l'histoire de la valorisation des déchets nucléaires. C'est pas rien, quand même. On ne peut pas nous servir ça comme un simple problème technique et nous imposer le nucléaire sans une consultation clair, sans enfumage, en présentant ça toujours comme la seule solution possible. Merci la Terre au carré pour cet espace de liberté que vous nous offrez. À bientôt.
Patrick de Viroflay. Donc je suis pas une personne cultivée. J'écoute vos émissions, ça me plaît beaucoup. Par contre, j'aimerais qu'on m'explique. Le nucléaire, c'est pas bien. Les énergies fossiles, bah, c'est pas top. Manger de la viande, c'est pas top. Alors, on fait quoi? À quel moment va-t-on nous demander de simplement arrêter de respirer? Parce que pour des gens simples comme moi, j'aime bien écouter vos émissions. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Merci, parce que j'apprends des choses en écoutant vos émissions. À bientôt. Au revoir.
Merci à vous Patrick pour votre appel et vous avez raison hein, de souligner la complexité des sujets qui nous laissent nous aussi parfois assez désemparés quant au choix qu'on doit opérer tous ensemble pour faire bouger réellement les choses et qui semblent parfois effectivement assez contradictoires. Vous avez été très nombreux et nombreuses à réagir hein, sur le répondeur à l'émission d'hier qui posait donc la question du choix du nucléaire pour le climat, sujet effectivement sur lequel on a tous besoin d'être informés voire consultés et vous pouvez réécouter cette émission qui est disponible bien sûr sur la page de la Terre au carré 01 56 40 45 45, le numéro du répondeur qui vous attend. Avez-vous déjà essayé d'observer une abeille de près, mais vraiment de très près? Essayez de vous approcher et de la regarder bien droit dans les yeux en vous concentrant. Eh bien, vous arriverez sans doute à voir à travers ses poils, sa tête transparente et même son cerveau. Un cerveau minuscule, gros comme une tête d'épingle et qui ressemble à un grand papillon qui aurait déployé ses ailes. Depuis plus d'un siècle maintenant, les recherches sur le comportement et le cerveau des abeilles ont permis de révéler un répertoire cognitif étonnamment riche et jusque-là insoupçonné chez les insectes. À quel point qu'on se pose aujourd'hui la question des limites de l'intelligence de ces créatures. Les abeilles, vous l'avez compris, sont des créatures miniatures fascinantes, avec des capacités tout à fait étonnantes, et c'est l'objet d'un livre, À quoi pensent les abeilles, qui paraît chez Humaine Science, et dont vous êtes l'auteur, Mathieu Liorot. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, ravi de vous accueillir dans l'émission. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialisé dans l'étude de l'intelligence des insectes, et vous dirigez à Toulouse une équipe, on le verra avec vous, qui explore les capacités justement des insectes à s'orienter dans le paysage. Vous allez donc nous aider à regarder droit dans les yeux des abeilles et vous allez bien sûr répondre aux questions qui arrivent sur la page de la Terre au Carré, sur les réseaux sociaux de l'émission et sur l'appli France Inter avec vos notes vocales. On se retrouve dans un instant. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On va passer au vert avec vous à 14h30.
L'Afrique du Sud sous l'eau, la région de Durban à l'est est dévastée par des inondations monstres.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaray avec aujourd'hui Florian Dorimini à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
La danse frétillante des abeilles à miel, Apis mellifera. La danse des éclaireuses, la danse des butineuses, leur danse frétillante dans l'obscurité de la ruche, qui indique la direction, la distance et la qualité d'un lieu de récolte, de nectar ou de pollen.
La voix de Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin, c'était en avril 2012 pour évoquer ces danses dont on parlera d'ailleurs avec vous dans un instant. Mathieu Liorot, vous qui travaillez donc depuis une quinzaine d'années sur l'intelligence des insectes, pour savoir par exemple s'ils ressentent des émotions, si les insectes ont une conscience ou un sens créatif. Vous avez par exemple étudié, vous le racontez dans le livre, la communication des fourmis, la personnalité des blattes, le vote des mouches ou l'apprentissage des abeilles. Ça vote une mouche ?
Ça se comporte comme si ça votait, effectivement. C'est les vrai. Mouches prennent des décisions collectives, comme on en prend actuellement pour élire des dirigeants.
Et les blattes, ça a une vraie personnalité aussi ?
Les blattes, tout organisme vivant a des différences, qu'on appelle personnalité.
En tout cas, ça vous fascine visiblement les insectes, c'est même votre métier aujourd'hui en tant qu'éthologue, alors que vous racontez que votre relation avec eux avait mal commencé au départ. Petit, vous avez fait comme tout le monde, finalement, vous avez plutôt maltraité ces animaux.
C'est ça, j'avais tendance plutôt à jouer avec eux, à être un peu maladroit. Et puis quand j'ai commencé à avoir une vocation pour l'étude du comportement animal, pour l'éthologie, je me voyais plus travailler sur des animaux un peu plus charismatiques.
Ah oui.
Qui font rêver.
Des grosses bêtes, c'est ça plutôt ?
Exactement, plutôt des singes.
C'est-à-dire que la blatte ne fait pas rêver, quoi.
Elle ne me faisait pas rêver. Aujourd'hui, j'avoue que des fois, j'en rêve.
Ouais. Et les fourmis, les abeilles, insectes, pareil, extrêmement intéressant à étudier.
C'est ça, donc c'est un groupe fascinant, en fait, pour lequel on ne connaît pas énormément de choses. Parce qu'il y a énormément d'espèces.
Alors, vous racontez qu'hein, jusqu'à très récemment, finalement, on doutait beaucoup de l'intelligence des insectes. C'était plutôt considéré comme de simples machines réflexes, pour reprendre Descartes. Ça fait réellement combien de temps qu'on a commencé à faire des travaux sur la question et qu'on a découvert des capacités cognitives aux insectes ?
Alors, à la fin du 19e siècle, il y avait déjà des naturalistes célèbres, Darwin, Fabre, pour les Français, qui observaient les insectes et qui leur prêtaient des capacités cognitives. Mais ces chercheurs ne faisaient pas vraiment d'expérimentation réplicable, c'était des observations. Donc, il y a à peu près une centaine d'années maintenant, on dit que les premiers travaux sur la cognition des insectes ont été réalisés, notamment par Charles Turner, qui était un chercheur afro-américain, qui n'a pas été très reconnu pour ses travaux, mais il était pourtant pionnier. Il a démontré en premier, par exemple, les abeilles voyaient des choses, et notamment peut-être des couleurs.
Oui.
Et ces travaux ont été ensuite repris par les Européens, blancs cette fois-ci, qui avaient toutes les capacités pour mener des recherches solides avec des équipes derrière eux.
C'est aussi la vie de ces chercheurs finalement, et de ces grands découvreurs que vous racontez dans cet ouvrage. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire aussi de l'éthologie au fond.
J'essaye un petit peu, oui, parce que rien n'a de sens si on ne prend pas en compte le contexte historique dans lequel les découvertes et les questions ont été posées.
Ouais. Le mot d'intelligence, il fait un peu débat en général, parce qu'on peut se dire, même quand on parle la personnalité des blattes, enfin, il y a un petit peu d'anthropocentrisme là-dedans. Vous assumez ce mot d'intelligence ?
Alors, je l'assume totalement, oui. Il y a de l'anthropocentrisme quand on prend ces mots dans la vie de tous les jours, disons. Mais dans nos domaines scientifiques, ces mots ont des définitions très claires. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est la capacité d'un organisme à avoir un comportement flexible en fonction du contexte. Donc, à pouvoir prendre des décisions informées. Les personnalités, ce sont des différences comportementales entre les individus qui sont stables au cours du temps. Donc
le
ça,
vote
ça dit... Alors le vote, là, j'assume que c'est de l'anthropomorphisme.
Ouais. Mais l'intelligence des abeilles, donc c'est possible avec un tout petit cerveau. Hein. Je parlais d'une tête d'épingle tout à l'heure, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment voir, alors parce que vous le décrivez dans votre livre, mais je me suis dit, c'est une boutade, on peut réellement voir le cerveau parce que la tête est transparente sous les poils?
Alors non, ça c'était une figure de style, disons. J'essayais de vous emmener dans la tête de l'abeille, ouais. Mais j'ai beaucoup de collègues neuroscientifiques qui s'intéressent purement au cerveau de l'abeille. Mmh. Donc ils mettent le cerveau à l'air, donc par des techniques que je ne décrirai pas ici, mais qui n'entraînent pas de douleur a priori. Et ils observent ce qui se passe dans le cerveau quand l'abeille apprend quelque chose ou répond à un stimulus en particulier.
Ouais. Donc toutes ces expériences, vous en parlez évidemment dans cet ouvrage. Mais alors des abeilles, il y en a combien d'espèces différentes? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a qu'une seule espèce, c'est l'abeille mellifère, mais pas du tout. Hein.
C'est ça, donc j'introduis le livre comme ça. On se focalise souvent sur cette espèce qui est domestiquée et que l'on observe depuis des millénaires. Mais en fait, le livre traite de 20 000 espèces d'abeilles que l'on a décrit sur Terre. Alors 20 000 plus ou moins, on ne sait pas combien, bien sûr, tout n'a pas été.
Et en France, combien sur ces 20 000 espèces?
Alors on en a une centaine, à peu près. Voilà.
Et le bourdon fait partie des abeilles?
Alors voilà, donc les abeilles sont un groupe d'insectes, voisines des fourmis et des guêpes. Mmh. Et dans ce groupe d'insectes, ce grand groupe, on a tous les bourdons. Toutes les espèces de bourdons, donc les bourdons sont des abeilles.
C'est vrai qu'il y a des abeilles sans dard?
Il y a des abeilles sans dard, notamment en Amérique du Sud et en Australie. Donc ce sont des abeilles très sociales, mais qui ne piquent pas.
Et des abeilles solitaires aussi, parce qu'on imagine toujours l'abeille dans un nid, hein, avec beaucoup de congénères autour d'elle, alors que certaines vivent seules.
Effectivement, en fait, c'est la majorité des espèces d'abeilles sur Terre.
Ouais. Mathieu Lureau, on va vous passer l'extrait d'un film dont vous parlez justement dans votre ouvrage, c'est Mimique de Guillermo del Toro, et vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant, parce que ça peut aussi, on verra, la science-fiction inspirer les chercheurs, voire devancer même les travaux scientifiques.
Et dis-moi, Suzanne... Ce sont des réponses que tu espères de moi? Ou une absolution?
Tu me reproches d'avoir créé les Judas?
Il serait peut-être hypocrite de ma part de porter un jugement.
Ça n'a rien d'une réponse, Walter.
Il n'est pas facile de répondre à ta question, mais en ce qui concerne les Judas, certains ont survécu, c'est probable. L'évolution s'arrange pour maintenir la vie.
Ils sont tous morts dans le labo.
Oui, Suzanne, mais tu les as quand même lâchés dans la nature. Et la nature est un bien plus grand labo.
Des mutants, des Judas lâchés dans la nature, des dictyoptères. C'est ça l'histoire du film, au fond, hein. C'est la création de ces animaux.
C'est ça, donc dans ce film, il y a des populations de blattes à New York qui envahissent la ville et qui répondent à un virus, et donc qui infectent les humains.
Ouais.
Et pour sauver, pour arrêter cette pandémie, des scientifiques ont créé des organismes mutants, des dictyoptères mutants qui allaient se mêler aux blattes et détruire les populations.
Et en quoi ça vous inspire, vous, en tant que chercheur, ce type de film, Mathieu Lureau, alors?
Et quel rapport avec les abeilles?
Alors, donc dans ce livre, je traite de l'intelligence des insectes en règle générale, ouais. Principalement les abeilles, parce que c'est celle-là qu'on étudie le plus. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur les cafards. Et à l'époque où je travaillais sur les cafards, j'ai vu ce film Mimique qui m'a inspiré. Parce que dans le film, les humains détruisent les cafards mutants en se badigeonnant des sécrétions de leurs glandes salivaires.
Ouais.
Donc les humains qui sentent le cafard s'introduisent dans les populations de mutants cafards et les détruisent.
Et vous avez dit, tiens, c'est une idée pour moi?
Et je me suis dit que c'était une très bonne idée, moi qui travaillais sur les cafards, et j'allais vraiment tester cette hypothèse, à savoir, est-ce que les cafards pouvaient se reconnaître entre eux grâce à leurs odeurs chimiques.
Ouais.
Et effectivement, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, j'ai pu démontrer que c'était la vérité.
Voilà, comment on passe de la science-fiction à la réalité dans un labo, hein, précisément. Mathieu Lureau, donc on parle effectivement principalement des abeilles dans cet ouvrage. Vous êtes notre invité et il y a des questions pour vous qui vous attendent de la part des auditeurs de la Terre au Carré. On verra dans un instant quelques exemples d'intelligence remarquable des abeilles.
Here we go.
Wet Dream, c'était Wet Leg à l'instant.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Elles ont développé les moyens de se protéger. Le funeste frelon arrive. Ces abeilles japonaises restent impassibles. Dès que l'intrus pose un pied dans la ruche, les abeilles se mettent à faire vibrer leur abdomen, comme pour faire une hola. Des centaines d'abeilles qui agissent à l'unisson, jusqu'à recouvrir entièrement le frelon géant. Elles font vibrer leurs muscles pour générer de la chaleur. 47 degrés, alors que le frelon ne peut pas survivre à plus de 46 degrés. Les abeilles anéantissent le frelon sans même utiliser leur dard. Leur abri est hors de danger.
Voilà une vidéo du National Geographic en novembre 2020. Et ça, Mathieu Lureau, c'est une scène que vous décrivez justement dans votre ouvrage avec ces abeilles japonaises qui ont donc développé, c'est ça, une stratégie de défense face aux frelons géants, hein.
C'est ça, donc ces abeilles japonaises ont développé cette stratégie après des milliers d'années d'évolution, de coévolution avec les frelons. Mmh. Donc les frelons se servent des abeilles, les mangent, mais les abeilles arrivent quand même à capturer, à tuer certains de ces frelons, ouais. Occasionnellement. Quoi,
donc en faisant monter la température à 47 degrés.
Elles montent la température, le frelon cuit, ouais. Les abeilles sont juste un petit peu chauffées, mais elles peuvent résister à cette température.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, cette scène-là, ou pas?
Non, j'ai jamais eu l'occasion d'observer. Ça se passe vraiment en Asie, ouais. Au Japon et en Chine.
Vous dites elles peuvent résister à 47 degrés. On connaît la température maximale à laquelle elles peuvent résister ou pas?
Je ne la connais pas, non.
En tout cas, c'est une bonne stratégie pour se défendre, effectivement. Est-ce que en laboratoire, vous avez un modèle d'abeille que vous privilégiez par rapport à d'autres, sachant qu'on le répète, le bourdon fait partie de la famille des abeilles, hein?
Oui, effectivement. Donc personnellement, j'étudie le bourdon terrestre, Bombus terrestris, qui est un bourdon qui est utilisé depuis une vingtaine d'années par un nombre croissant de chercheurs, parce qu'ils vivent en colonies comme les abeilles domestiques. Mais ces colonies sont toutes petites, donc on a 200, 300 individus contre 40 000, 60 000 individus pour les abeilles domestiques. Ces colonies donc tiennent dans une boîte avec peu d'individus. Les bourdons sont peu agressifs, il y a peu de chances de se faire piquer finalement, ouais. Contrairement à ce qu'on peut voir avec des abeilles domestiques. Et puis ces bourdons, on peut les étudier toute l'année. Il n'y a pas de dormance, on peut les garder en laboratoire et ils peuvent voler dans des salles avec des lumières artificielles.
Il y a des reines aussi chez les bourdons?
Donc il y a une reine, ouais. Et des ouvrières.
D'accord. Donc façon. Le bourdon, c'est une ouvrière en réalité, c'est un individu femelle, hein.
C'est ça exactement. Donc ouais. La langue française n'aide pas.
C'est ça exactement. Les abeilles et les bourdonnes, on pourrait dire presque.
Exactement. Et chez les abeilles domestiques, le faux bourdon est le mâle.
Et donc effectivement, voilà. dans vos laboratoires, vous êtes moins piqués aussi parce que bon, on dit souvent oh là là les abeilles, elles ont une très bonne réputation, on est d'accord dans la population comparé aux guêpes, parce que certains trouvent ça totalement injuste, mais les abeilles peuvent piquer et c'est plus facile effectivement de travailler avec des bourdons qu'avec des abeilles, c'est ce que vous dites.
Oui, c'est ce que je dis, les abeilles peuvent piquer comme les bourdons, sauf que les abeilles, il y en a beaucoup. Mmh. Et quand on se fait piquer, il peut y avoir un recrutement, on peut se faire piquer par plusieurs abeilles. Mmh. Les bourdons sont moins agressifs. Et donc c'est beaucoup plus agréable de travailler, ouais. Avec.
Donc vous les testez en laboratoire, mais est-ce que après vous reproduisez vos expériences dans la nature pour, oui. Voir si ça fonctionne?
Voilà, c'est ça. Donc mon approche est celle de finalement un nombre croissant de chercheurs, c'est d'observer ce qui se passe dans la nature, donc d'accepter de passer du temps dehors, ouais. À regarder les bourdons.
Bon, il y a pire, hein, franchement.
Exactement, c'est la meilleure phase.
On ne va pas vous plaindre.
Regarder et se demander justement qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une abeille ou d'un bourdon.
Et en général, vous arrivez vraiment à reproduire la même expérience ou c'est très différent quand on est en milieu naturel?
Alors c'est différent, mais j'y viens. Donc on prend l'idée dans le milieu naturel. Donc, à quoi l'abeille doit penser pour résoudre ce problème? Mm-hmm. Après on va en laboratoire en général et on essaye de reconstituer le problème de manière très simplifiée, de le tester. Et quand on a un résultat, ensuite on retourne sur le terrain. Mm-hmm. Et on refait l'expérience en milieu semi-naturel. Et
elle n'est validée que lorsqu'elle est vérifiée en milieu naturel ou pas?
Donc c'est mieux. Ouais. Ça veut dire que ce qu'on raconte a un sens.
Une question de Gilles sur l'application France Inter. Il voudrait savoir si l'intelligence des abeilles est collective.
Alors, oui.
Est-on intelligent individuellement et collectivement ou l'un des deux?
Alors oui, dans le livre je traite les deux. Donc ces animaux ont un cerveau, ils sont capables d'apprendre des choses et de prendre des décisions individuellement. Mais ce sont des groupes extrêmement intégrés avec une communication très sophistiquée et ils prennent des décisions de manière collective. Donc ne serait-ce que pour aller chercher de la nourriture, les abeilles qui ont trouvé de la nourriture vont pouvoir recruter d'autres abeilles. et il va y avoir des systèmes d'emballement et de phénomènes collectifs pour choisir les meilleures sources de nourriture ou les meilleurs sites de nidification.
Alors ça, c'est passionnant parce que vous le racontez, ça rejoint justement l'extrait qu'on entendait tout à l'heure avec Jean-Claude Amezen, c'est la façon dont les informations sont transmises lors de la navigation pour aller évidemment chercher de la nourriture. Chez les jeunes abeilles, quand on sort pour la première fois de son nid, on doit évidemment apprendre à se repérer pour pouvoir revenir ensuite, après avoir butiné vers son nid. Donc il y a un vol, il y a des vols d'apprentissage, c'est ça hein ?
C'est ça, donc ce sont les premiers vols dans la vie des abeilles. Les abeilles qui sont déjà généralement assez vieilles, hein, quand elles sortent de la ruche, elles ont passé toute leur vie dans la pénombre de la ruche. Et donc la première fois qu'elles sortent, il faut voler et il faut pouvoir revenir à la ruche, sinon...
Sinon on est paumé quoi.
On est paumé, voilà.
Toute leur vie, ça veut dire combien de temps à l'échelle d'une abeille avant de sortir ?
Alors une abeille domestique, ça va vivre à peu près 2 semaines. 2 semaines en tant qu'adulte dans la ruche avant de potentiellement sortir. Et donc durant ces premiers vols, il va falloir apprendre à reconnaître où on est. Donc les abeilles font des vols stéréotypés en zigzag. Donc elles se tournent face à la ruche, elles font des zigzags d'amplitude croissante. Et pendant ces zigzags, on pense qu'elles enregistrent toute l'information visuelle pour reconnaître exactement l'emplacement de la ruche et apprendre tous les repères saillants à proximité de la ruche.
Elles cartographient finalement l'environnement.
Mais elles le font seules ou elles ont des tuteurs un peu qui leur expliquent, alors voilà, faut que tu repères, etc. Ou
non, c'est d'instinct. Parce que l'abeille se tutoie entre elles, hein, évidemment.
C'est ça, exactement. Évidemment. Donc ça, a priori, elles le font toutes seules. C'est vraiment une question
donc elles savent toutes seules qu'il faut qu'elles cartographient, c'est quand même fort ça.
Oui, après ce sont des comportements plus ou moins innés, voilà, qui sont nécessaires pour que les abeilles survivent, et donc elles font cette chorégraphie pour apprendre à se repérer.
Donc c'est des vraies danses, hein. Vous parlez de chorégraphie, mais c'est ça. Hein.
Ça s'apparente à une danse, donc ce sont des zigzags en 3 dimensions d'amplitude croissante.
Et elles s'éloignent après de plus en plus, elles se testent un peu pour s'éloigner et pouvoir aller de plus en plus loin et revenir.
Exactement, donc elle va faire ça 2-3 fois, et puis à chaque fois elle va aller un peu plus loin. Et puis quand elle a appris à se repérer, après elle va explorer l'environnement. Dans le cas des abeilles domestiques, on sait qu'elles font plusieurs vols pour explorer différentes directions, le nord, le sud.
Mais sur quelle distance ? Le rayon maximum d'une abeille, c'est quoi, a priori, autour du nid ?
Alors, le record d'une abeille domestique, c'est 10 km.
Ah, quand même.
Les Dupont.
Et il existe des abeilles sous les tropiques qui ont été enregistrées avec des vols de 20 km. Mm. Donc, on ne sait pas exactement quelles sont les limites de ces vols.
Et en moyenne, alors, c'est quoi, en général ? Elles s'éloignent pas trop quand même ?
En fait, ça dépend de la présence de sources de nourriture. Donc si les fleurs sont à proximité de la ruche, les abeilles n'ont aucune raison d'aller loin. Ouais. Si les fleurs sont très très loin, là ça les pousse à explorer un peu plus.
Et quand l'abeille sort butiner, elle part avec son petit panier, comment ça se passe alors pour ramener son nectar au nid ?
Alors elle a son panier intégré, elle a donc un estomac, c'est ce qu'on appelle le jabot. Non, c'est très intéressant.
Merci. Merci de valider la question.
Donc son estomac a une capacité pour stocker du nectar, donc de l'eau sucrée qui est disponible dans les fleurs. Pour une abeille domestique, c'est à peu près 60 microlitres. Et on estime qu'il faut que l'abeille visite une centaine de fleurs pour remplir son jabot.
Oui, donc c'est quand même beaucoup.
C'est beaucoup. Voilà. Et le problème peut être différent si jamais toutes les fleurs sont au même endroit. Donc si l'abeille va visiter un arbre en fleurs, donc dans ce cas-là, c'est pas très compliqué. Mais si les fleurs sont distribuées, dispersées dans l'environnement, comme dans une prairie par exemple, là ça peut être un peu plus compliqué.
Et elles se répartissent les fleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de concurrence, 2 sur la même, ou 3, 4, 5, 10, j'en sais rien, mais elles se répartissent un peu le territoire, on va dire ?
C'est ce qu'on pense. Alors ça, c'est pas très bien connu parce qu'on a du mal encore à suivre les abeilles en situation naturelle, parce qu'elles vont très loin, elles vont très vite et il y en a beaucoup. Mais on pense qu'elles se répartissent un peu l'espace, les ressources, par des mécanismes qu'on ne connaît pas encore.
Il y a des repères visuels également. Vous dites que le soleil leur sert aussi de GPS au fond.
Voilà, donc le soleil c'est le principal repère visuel, il est tout le temps là. Même quand on ne le voit pas à l'œil nu, on peut savoir où il est grâce à la lumière polarisée. Donc les abeilles ont un troisième œil au-dessus de la tête qui leur permet d'avoir accès à cette lumière polarisée. Donc elles connaissent en permanence la position du soleil. Et le soleil, c'est le compas permanent qui leur permet de naviguer.
L'intelligence des abeilles, on verra s'il y a des limites à cette intelligence. On verra aussi que les abeilles sont des animaux et des insectes très sensibles, évidemment, aux polluants en particulier. Vous évoquez évidemment cet aspect-là dans votre ouvrage, Mathieu Lureau. À quoi pensent les abeilles chez Humaine Science ? On se retrouve dans un instant avec d'autres questions pour vous.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, on passe au vert, Camille Cronier.
Et pendant que nous sommes nombreux à nous réjouir de la météo printanière dans l'Hexagone, d'autres sur la planète sont en train de vivre des catastrophes. Par exemple, un typhon aux Philippines, 123 morts au moins en ce moment, ou ce qui est annoncé comme les pires inondations de l'histoire de l'Afrique du Sud. Le bilan ne cesse d'augmenter depuis qu'elles ont démarré le week-end dernier. On en est à 306 morts. Alors là, c'est le son de l'une des nombreuses vidéos postées par les habitants sur les réseaux sociaux. Une route s'est transformée en torrent déchaîné. C'est ça qu'on entend. Et une voiture avec des gens à l'intérieur se fait emporter. Image terrible. Il y a aussi des troupeaux de bovins qu'on voit lutter dans le courant et des gens qui y assistent absolument impuissants. Et puis les maisons qui s'effondrent. Voilà, comme un château de cartes avant d'être englouti. Témoignage d'un habitant à qui la télé sud-africaine demande, une fois le calme un petit peu revenu, ce qu'il a perdu.
Everything.
Tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Même la maison. On n'a retrouvé que des bouts de cabane. Mais tout a disparu.
C'est la région de Durban, le KwaZulu-Natal, à l'est de l'Afrique du Sud, qui a été touchée. Il y a 3,5 millions d'habitants, certains vivant dans des quartiers très pauvres. Où est allé hier le président Cyril Ramaphosa face à des familles, des mères en pleurs. Je vois à quel point c'est grave, dit-il en langue zoulou. Les maisons, les routes, les ponts ont été emportés. Et je précise que ce n'est pas fini, la pluie continue et le risque d'inondation est toujours présent. Alors que s'est-il passé? Réponse avec Philippe Caroff, responsable du Centre des cyclones tropicaux de Météo France, basé à La Réunion.
En fait, on a une dépression d'altitude assez creuse, assez marquée, qui est venue se positionner donc sur l'Afrique australe, qui fait qu'on a une masse d'air très instable, donc qui propice à un développement nuageux de type orageux, donc et un fort potentiel pluvieux, qui ont été alimentés donc dans les basses couches de l'atmosphère par de l'air chaud et très humide ramené dans un flux d'est-nord-est depuis le centre-sud du canal du Mozambique. Et donc la rencontre de ces deux phénomènes, si vous voulez, a pris un caractère un petit peu explosif, entre guillemets.
Avec plus de 500 mm d'eau depuis lundi, 569 mm précisément, quantité astronomique.
C'est énorme, oui, même pour donner une ordre de grandeur, donc par rapport à ce qui pleut en une année à Paris, c'est 600-700 mm par an.
Voilà, donc c'est l'équivalent de presque un an de précipitation en métropole, 600-700 mm à Paris, 569 là dans la région. Il y avait en plus plu les jours d'avant, donc les sols étaient gorgés d'eau, ce qui a bien sûr aggravé la situation. Exceptionnelle, mais déjà vécue à une échelle un tout petit peu plus petite en 2019, il y avait eu 70 morts. Question donc qui se pose à chaque fois, doit-on y voir un lien avec le changement climatique?
Alors ça c'est toujours la question à 100 balles. Qu'on sait avec le réchauffement climatique, c'est qu'on va avoir une tendance à un accroissement de la fréquence ou de la récurrence de phénomènes qu'on dit à l'heure actuelle exceptionnels, qui prendront un caractère peut-être moins exceptionnel dans 50 ans ou 100 ans. Mais voilà, c'est très difficile, un événement pris individuellement, de dire bon, ça c'est le réchauffement climatique. C'est difficile d'en établir la preuve absolue, quoi.
Mais dans tous les cas, et vu les dégâts, cet événement rappelle ce qu'affirmait le GIEC fin février dans un de ses rapports, la nécessité absolue de s'adapter. Mmh. Mais vous vous souvenez, c'était passé complètement sous les radars.
Voilà, avec ces inondations en Afrique du Sud, Camille passe au vert à réécouter évidemment sur la page de l'émission.
Mathieu Lioro, est-ce que les abeilles, quand il pleut, alors évidemment on ne va pas parler d'inondations, de cyclones, mais quand il pleut, est-ce qu'elles peuvent quand même sortir ou vous, par exemple la goutte de pluie, ça les empêche de voler et donc elles restent vraiment à la ruche?
Eh oui, non, c'est très dangereux quand il pleut, donc elles restent confinées.
Et si ça dure longtemps, ça peut poser un problème justement à la survie du nid ou pas?
Eh oui, exactement.
Le fait d'être empêché d'aller chercher de la nourriture?
Eh oui, oui. Donc ça peut, de longues pluies comme ça, ça peut...
Ouais. N'importe quelle pluie, c'est-à-dire quand c'est une petite bruine ou quoi, elles y vont quand même pas.
Non, il y a certainement un seuil qu'on n'a pas déterminé, mais dès lors qu'elles peuvent voler, elles sortent. Mais en général, quand il pleut, tout le nectar des plantes, de toute façon, est lavé et lessivé.
À quoi pensent les abeilles? Eh bien, c'est ce qu'on vous raconte cet après-midi dans la Terre au carré.
Je peux sourire, je peux venir dans mes
souvenirs, tu me fais vivre. Un peu plus loin, un peu plus toi, un peu plus moi. Un petit rien, un peu plus mien, toi et moi. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça c'est pas mon affaire. Si je brûle en enfer, au moins j'aurais écouté l'air. C'est plus facile à dire qu'à croire, mais ça c'est pas mon histoire. Si je m'oublie, prends garde à toi. Si je t'ennuie, prends garde à moi. Si je me dis, regarde-moi. Prends garde à toi, prends garde à moi.
Deux mots, Anna Magidson sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Nous parlons des abeilles, la grande famille des abeilles, 20 000 espèces, nous disait notre invité Mathieu Lureau en début d'émission avec cet ouvrage qui paraît donc chez Humaine Science. Alors moi, il y a une question que je me posais, c'est est-ce qu'on sait si les abeilles prennent du plaisir à aller bosser en sortant de la ruche, à aller butiner? Est-ce que ça a été étudié?
Non, pas ma connaissance, et c'est très compliqué à étudier. On n'en est pas là du tout. Donc ça, le plaisir, ça rejoint les notions de jeu, donc chez les animaux, et c'est encore quelque chose d'assez controversé et qu'on comprend pas vraiment bien. Mais effectivement, il y a des animaux qui ont l'air de jouer et de s'amuser.
Mais vous expliquez quand même, le goût du travail a été étudié chez les guêpes, par exemple.
Alors oui,
c'est quand même amusant, ça. Le goût du travail.
Quand j'explique ça, c'est aussi pour expliquer, donc je fais référence à des très vieux travaux des années 1800. Et je montre comment la science a évolué quand même. Donc le goût du travail chez les guêpes et les abeilles, c'était une approche purement anthropomorphique. Donc là, l'hypothèse vient de l'homme et on la teste chez l'abeille. Alors que justement, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que l'approche ne doit pas être anthropomorphique, mais elle doit être centrée sur le comportement des abeilles.
Une dernière question avant de passer à celle des auditeurs. Quand on observe comme vous les abeilles, est-ce que vous remarquez que toutes travaillent de la même manière? Ou alors, est-ce que certaines se la coulent douce? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des super butineuses et des grosses feignasses dans une ruche, par exemple?
C'est exactement ça. Ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'il y a une variabilité dans les comportements des abeilles de la ruche qui est extrêmement vaste. Et on a des butineuses qui font 50% du travail de la ruche, alors que d'autres ne sortent quasiment jamais, ou quand elles sortent, elles ramènent rien.
C'est fou, ça.
Donc on a encore du mal à comprendre quelle est l'origine de cette variabilité, mais elle existe, et certainement elle est adaptative pour les colonies. D'accord.
Et ça tourne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas celles qui font un peu les feignasses pendant une semaine, pendant que les autres y vont, et la semaine d'après, c'est le contraire.
Non, il semble pas. Il semble qu'elles soient nées comme ça.
Nées feignasses.
Nicolas, sur l'application France Inter, voudrait savoir, on parlait tout à l'heure des abeilles asiatiques qui arrivent à se défendre et même à tuer les frelons asiatiques. Est-ce que les abeilles européennes pourraient apprendre leur technique pour se débarrasser des frelons asiatiques ici en Europe ?
Alors oui, c'est une possibilité, mais c'est pas vraiment de l'apprentissage. C'est-à-dire que la stratégie que l'on observe chez les abeilles asiatiques, c'est le fruit d'une coévolution, d'une lente coévolution qui a duré plusieurs milliers d'années. Donc si on veut que nos abeilles domestiques produisent ces comportements, ça risque de prendre énormément de temps. Et en fait, ça va se produire petit à petit. Les abeilles qui vont commencer à former des boules vont être sélectionnées, vont survivre. Et puis petit à petit, les boules vont devenir de plus en plus grosses. Et peut-être dans 600 ans, on aura des colonies qui se défendront contre les frelons. Est-ce que ça sera encore un problème, le frelon? Je ne sais pas.
Il faut un apprentissage pour ça. Vous parlez aussi de votre lien au bourdon, donc, puisqu'on le disait tout à l'heure, c'est votre objet d'étude. Et on parlait de l'aspect visuel, de l'observation justement au moment du vol. Vous racontez qu'à un moment, ils vous ont même confondu, puisque vous étiez souvent auprès d'eux pour les observer. Ils vous ont confondu, c'est ça, par rapport à l'entrée de leur propre ruche?
Oui, c'est quelque chose qui arrive souvent. Finalement, quand on étudie ces animaux, on place des ruches dans la nature ou dans des tentes. On laisse butiner les bourdons. Ils font des vols d'orientation, donc ils apprennent la scène visuelle pour revenir à la ruche. Et quand on est là, au moment de l'apprentissage, on fait partie de la scène visuelle.
Ouais.
Et donc, si jamais on se déplace un petit peu, les bourdons reviennent à la ruche, vont nous suivre. Oui.
Comme des chiens fidèles.
Exactement, donc ça peut durer quelques heures.
Question de Philippe sur le mail de La Terre au Carré. Est-ce que les abeilles ont conscience qu'elles vont mourir en piquant?
Oula, c'est une très bonne question. Donc la question de la conscience, c'est quelque chose qui est extrêmement débattu et difficile pour n'importe quel animal. Même pour nous, autour de cette table, j'imagine que vous êtes des personnes conscientes, parce que moi-même je suis conscient, mais je ne peux pas le prouver. Donc on est encore très loin de comprendre ces phénomènes chez des organismes.
Mais on n'a pas noté, par exemple, de comportements spéciaux chez les abeilles qui, on va dire, restent vivantes, quand d'autres sont mortes parce qu'elles ont piqué. Il n'y a pas de changement de comportement observé, en tout cas, encore.
Pas à ma connaissance, non.
Bon. La fragilité des abeilles, ça c'est tout un chapitre également du livre, parce que vous rappelez quand même que ces animaux sont ultra affectés par la crise de la biodiversité. Certaines zones géographiques sont même dépourvues d'abeilles aujourd'hui.
C'est ça, oui. Donc depuis une vingtaine d'années, on sait, c'est très connu, dans l'est de la Chine, il y a des zones où il n'y a plus du tout d'abeilles. C'est des zones extrêmement polluées et la pollinisation des cultures se fait à main humaine. Donc c'est extrêmement dommageable et bien sûr la production des cultures est très faible.
On va entendre à ce sujet-là un petit reportage d'Arnaud Miguet de France 2, c'était en JT de 20h en 2017.
Dans les vergers, les villageois de l'ethnie Chiang s'affairent. Les femmes grimpent aux arbres et agitent ces drôles de plumeaux pour atteindre les fleurs les plus éloignées. Ce qu'elles font, de la pollinisation.
Cette pollinisation à la main, c'est très bien. Moi, je dois m'occuper de centaines d'arbres.
Ici, on les appelle les danseuses des cimes ou femmes abeilles. Car faute de butineuses, c'est elles qui nourrissent de pollen les fleurs de cerisier. Un travail minutieux que Wang Lizhen fait depuis des années, 12 heures par jour, pendant 2 semaines.
Je mets du pollen sur ces fleurs. Ça les aide à avoir de meilleurs et de plus gros fruits. Difficile d'avoir des fruits sans la pollinisation artificielle. Et ici, on n'a pas de pesticides. C'est plus naturel.
Voilà, la pollinisation à la main, c'est quand même extrêmement triste, Mathieu Lurot, non?
Ah oui, c'est affligeant.
On est arrivé là.
Bien sûr, c'est affligeant et ça veut dire qu'on va perdre la biodiversité. Mmh. En tout cas, des plantes à fleurs qui nécessitent que les abeilles, les pollinisateurs au sens large, transfèrent le pollen et qui assurent leur reproduction.
Mais on peut imaginer un monde sans abeilles, par exemple, ou pas?
Moi, je l'imagine pas.
Ce serait viable ou pas?
Imaginer un monde sans abeilles, c'est imaginer un monde où toutes les plantes à fleurs sur Terre ne se reproduisent plus, ou très peu, à part celles qui se reproduisent avec la pollinisation, avec le vent. Et donc, tous les animaux qui se nourrissent des plantes, directement, ou des fruits, ou des légumes, n'auraient plus rien à manger. Donc, on peut s'imaginer à ce que certaines chaînes alimentaires s'effondrent totalement.
Une question de Serge, toujours sur franceinter.fr. Pourquoi les abeilles font-elles du miel? Est-ce qu'elles en ont besoin pour elles ou est-ce que ça sert juste à tartiner nos tartines? Et que pensent-elles du pillage de leur ruche, il ajoute.
Excellente question. Donc toutes les abeilles dont on a parlé tout à l'heure, les 20 000 espèces, finalement produisent du miel, la majorité en très faible quantité. Et les espèces domestiquées, l'abeille domestique, l'abeille mellifère, produisent d'énormes quantités de miel pour passer l'hiver. Donc ce sont des colonies qui peuvent durer plusieurs années. Et l'hiver, il fait tellement froid, le climat est tellement mauvais qu'elles peuvent pas sortir à l'extérieur pour aller butiner. En plus, il n'y a rien à butiner. Donc elles se nourrissent des stocks de miel qu'elles ont fait pendant l'année.
Et est-ce qu'on les pille en quelque sorte ou pas?
Alors on les pille, mais on a plusieurs millénaires de recul sur les pratiques. Donc les apiculteurs prennent ce qu'ils peuvent prendre et ils laissent assez à la colonie pour survivre.
On en est où d'ailleurs aujourd'hui des effondrements de population d'abeilles? On en parle un tout petit peu moins, j'ai l'impression, ces derniers mois, alors que évidemment avec les néonicotinoïdes en particulier, on a vraiment évoqué ces problèmes autour des produits phytosanitaires. C'est quoi là le bilan aujourd'hui?
C'est toujours dramatique, hein. On voit toujours les colonies domestiquées qui s'effondrent tous les ans, souvent avant l'hiver, pendant l'hiver. Donc ça, c'est des pertes, mais c'est des pertes qui sont des pertes finalement pas si graves que ça par rapport aux pertes potentielles des abeilles sauvages. Donc là, on parle d'abeilles domestiquées qui sont gérées par des apiculteurs et tous les ans, les apiculteurs remettent des reines et refondent des colonies. Donc on perd les abeilles domestiques, mais on
arrive à régénérer au fond les populations.
On régénère les cheptels. Mais ça, c'est les abeilles qu'on domestique. Ce qui est important, vraiment, c'est tout le reste. Les 1999.
Apiculteurs vont être contents en vous entendant.
Les espèces. Mais non, mais les apiculteurs, bien sûr, qu'ils ont raison de se plaindre et ce sont les premiers observateurs de ces effets néfastes de l'érosion de la qualité environnementale sur la biodiversité. L'abeille domestique est une espèce sentinelle. Mais on ne peut qu'imaginer les conséquences sur les espèces sauvages. Mmh. Les espèces sauvages qui, souvent, pollinisent des espèces de plantes qui ne sont pas pollinisées par les abeilles domestiques. Et donc là, on parle du maintien des écosystèmes naturels.
Qu'est-ce qui se passe en fait avec ces produits phytosanitaires? En fait, ça atteint le système nerveux de l'abeille, c'est ça? Donc ça crée un dysfonctionnement total dans sa navigation, par exemple?
C'est ça. Plusieurs de ces molécules sont des neurotoxines. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont utilisées pour lutter contre d'autres insectes. Mmh. Et ces neurotoxines, les abeilles s'en nourrissent. Et donc ça attaque directement leur cerveau. Alors c'est des faibles doses. Hein.
Oui.
Mais même ces faibles doses, il suffit qu'il y ait 2-3 neurones qui soient impactés. Le cerveau est tellement petit et tellement compact.
Tout est en miniature donc.
Exactement. Et les capacités nécessaires à naviguer, à les butiner, les capacités cognitives sont tellement sophistiquées que un petit détériorement de ces capacités fait que les abeilles ne peuvent plus se nourrir. Donc elles ne meurent pas directement, mais elles ne se nourrissent plus. Et donc au bout d'un moment, la colonie s'effondre.
Et vous rappelez malheureusement que aussitôt bannies ces molécules, même s'il y a eu dérogation pour certains produits comme les betteraves, ont été remplacées par d'autres molécules tout aussi dangereuses en réalité. Donc ça, on ne bouge pas finalement.
C'est ça, c'est un puits sans fond. Pour l'instant, on est dans une impasse. Donc
Et dans le comportement, je pose la question, j'en sais rien, mais les abeilles, à force d'être confrontées à ces produits destructeurs, est-ce qu'elles pourraient modifier, c'est-à-dire essayer de s'orienter vers d'autres fleurs ou pas du tout, enfin quelque part sentir qu'il y a des pesticides, quoi.
Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Par exemple, les néonicotinoïdes, les plus connus, ces pesticides tueurs d'abeilles, sont des drogues. Et en fait, il semble que les abeilles soient même addictes à ces néonicotinoïdes. Donc c'est un peu comme on devient addict à la nicotine, c'est les mêmes circuits neuronaux qui sont impliqués.
Donc elles seraient attirées au contraire par les fleurs qui
C'est ce que les dernières études tentent à prouver.
Ouais, ce qui est encore pire, puisque finalement là c'est les condamner directement, il n'y a aucune issue de secours.
Exactement.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme autre problème? Vous évoquez les métaux lourds.
Alors les métaux lourds, c'est une pollution qui est pas très très bien connue du grand public, mais l'atmosphère est saturée de métaux lourds qu'on relâche à cause de production industrielle, d'activités minières, etc., etc. On l'a fait pendant des années, on le fait partout sur la planète, et on respire donc des produits qui sont mauvais. Et donc ce qu'on voit sur les abeilles, c'est que quand il y a des très faibles doses de métaux lourds, de plomb, de zinc, d'arsenic dans le nectar, ces abeilles n'arrivent plus à apprendre à discriminer des couleurs ou des odeurs. Donc ça affecte leur système nerveux au même titre que les néonicotinoïdes.
Donc produits phytosanitaires, métaux lourds, il y a les parasites aussi.
Certains parasites. Hein,
dans la liste des effets délétères sur ces animaux.
Exactement, donc certains parasites que l'on importe avec des abeilles d'autres pays ou avec le transport humain de plus en plus.
Donc ça c'est des maladies qu'on observe chez l'insecte par exemple, créées par les parasites?
Exactement, donc les parasites peuvent soit affaiblir directement les insectes qui bougent plus très bien, ou soit directement attaquer le système nerveux. Et puis la dernière cause importante, c'est la malnutrition.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que les abeilles se nourrissent de plantes, mais quand elles sont dans un environnement où il n'y a plus de plantes, ou s'il y a seulement un seul type de plante...
Donc pas de diversité.
Pas de diversité. comme c'est le cas pour vous et moi.
5 fruits et légumes,
hein, exactement.
C'est pareil pour les abeilles.
Et donc ça a un peu impacté le cerveau.
Ouais.
Est-ce qu'elles peuvent se soigner, les abeilles? Est-ce que si elles vont pas bien, elles ont moyen de se remettre?
Oui, alors ça c'est pas très très bien connu, mais on plusieurs études qui suggèrent que les abeilles qui sont infectées par certains parasites vont chercher plus de protéines, donc plus de pollen, pour stimuler leur système immunitaire. Voilà, ça mérite d'être vérifié, mais en tout cas c'est intéressant et c'est quelque chose qui est connu chez d'autres animaux.
Donc il y a une sorte de pharmacopée, mais à détailler en tout cas.
Exactement.
Ouais. Mathieu Leroux, est-ce que vous connaissez la chanson de Bourvil qui s'appelle Les Abeilles justement?
Ah bien sûr.
Ah ben voilà, et ben on va l'écouter parce que moi je ne la connais pas, donc c'est pour tous ceux qui comme moi ne connaissent pas cette chanson de Bourvil.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps, et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, 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 bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elle par hasard, il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa, mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille. Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Je demande un peu. Enfin, allez, à la ruche, à la ruche.
C'est l'hymne de votre laboratoire à Toulouse, Mathieu Leroux, les abeilles de Bourvil.
Pas encore, mais c'est une très bonne idée.
1965.
France Inter, la Terre au carré.
Allez, on est encore avec vous pendant quelques instants avec les messages des auditeurs de l'émission, Camille.
Oui, un message pour savoir si les abeilles dorment, et si oui, quand et où, Mathieu Leroux?
C'est une excellente question, c'est quelque chose encore qui n'est pas très bien connu, mais ce qui nous fait penser qu'elles dorment, c'est non seulement qu'elles sont inactives la nuit, mais également quand on enregistre l'activité du cerveau, on a des signaux qui sont un peu différents de quand elles sont en mouvement.
Et en observant l'œil, on voit rien de particulier?
Ah non, j'ai pas essayé.
Il n'y a pas la paupière de l'abeille. Hein,
non, malheureusement, il n'y a pas de paupière.
Ouais. Mais l'œil est fascinant, hein, vous le racontez dans votre livre, c'est un organe extraordinaire chez cet animal. Hein.
Ah oui, c'est un œil à facettes, donc un œil composé de dizaines de mini-œils identiques. Voilà. Et au début, on imaginait que les abeilles voyaient en mosaïque. Bien sûr, c'est pas le cas. Donc oui, chaque œil perçoit l'information visuelle, mais après tout cela est intégré dans le cerveau.
Mais on pourrait imaginer, ça donnerait quoi alors si on avait un œil d'abeille? Qu'est-ce qu'on verrait alors?
Oui, quelle vision ouais.
Alors, on verrait à 300 degrés déjà.
300, d'accord.
Voilà, on verrait pratiquement toute la scène.
Ouais.
On serait myope.
D'accord.
Peut-être donc, vous l'êtes déjà.
Donc on voit pas bien de loin.
On voit pas très bien de loin. Ouais. On voit les couleurs de l'orange jusqu'aux ultraviolets. Donc on voit un petit peu différemment de nous. On voit un monde qui nous est invisible.
Mais c'est une seule image. C'est pas des. Voilà, c'est pas priori, plusieurs images.
A priori c'est une seule image. Ouais. Donc on voit les ultraviolets. C'est très important parce que en fait la plupart des plantes à fleurs émettent des ultraviolets. Un coquelicot par exemple, c'est pas rouge. Pour une abeille.
Pratique pour repérer les fleurs.
Exactement.
Et ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des couleurs qui les attirent plus particulièrement?
Alors oui, les abeilles domestiques, les bourdons sous nos latitudes sont très attirés par le bleu, de manière innée. Bleu-violet.
Et il y a beaucoup de fleurs bleues et violettes dans la nature justement?
Et il y en a beaucoup effectivement, ouais. Les lavandes, etc.
D'autres questions, Camille?
Oui, Katia voudrait savoir, elle dit ce matin en voyant les abeilles butiner des fleurs de romarin, je me suis demandé comment font les apiculteurs et donc les abeilles pour savoir que le miel produit est du miel 100% romarin.
Ah, c'est une question complexe. Bon, les apiculteurs, en général, se mettent dans des endroits où il n'y a que du romarin, à 3 km à la ronde. 3 km, on pense que c'est la distance moyenne à laquelle les abeilles vont explorer. Après, la meilleure façon de le savoir, c'est de faire des analyses du miel. Donc, il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans les analyses chimiques et ils peuvent vous dire, certifier oui ou non, s'il y a que du romarin dans le miel.
Mais donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la malnutrition que vous soulignez, si elle mange que du romarin, en l'occurrence, est-ce que c'est pas mauvais pour elle, finalement?
C'est possible, mais c'est quelque chose qui va se faire séquentiellement. Donc, les apiculteurs migrent leur colonie, ils les placent à un moment donné pendant 2-3 semaines à un endroit où il y aura du romarin. Donc à ce moment-là, effectivement, les abeilles vont se nourrir que de romarin, mais quelques semaines plus tard, elles vont transhumer ces ruches ailleurs où les abeilles vont manger autre chose. Donc c'est de la malnutrition séquentielle, les abeilles ont l'air de bien
le
bien
supporter, s'en sortir, en tout cas.
De bien vivre.
Mais aussi de la diversité dans l'assiette de l'abeille, comme pour nous. Merci beaucoup Mathieu Liorot, bon retour à Toulouse. Vous saluerez Audrey Dussoutour et Antoine Vistrac qui travaillent aussi dans votre labo et qui eux se consacrent plus particulièrement aux fourmis. Votre ouvrage « À quoi pensent les abeilles ?» est sorti chez Humaine Science. Merci beaucoup.